Mes gourmettes, chers amis de la gastronomie fidèle au poste, je vous salue Marie pleine de grâce et je suis content de vous retrouver en ce mardi 16 avril. C'est la 94e émission, au microphone Philippe Mollet, assiette et fourchette, et notre ami Bruno Goguel-Minetti, notre réalisateur chouchou, réalise cette émission maintenant depuis 94 fois. Ça fait quand même pas mal de temps hein, quand on se regarde. Là, comme je vous disais la semaine dernière, on se rapproche de la centaine. On commence à être vieux. Bon, alors, aujourd'hui, le 16 avril, on parle de quoi? On parle de barbecue. Je vous en avais parlé la semaine dernière. On va parler de barbecue parce que la saison s'en vient, parce que c'est le temps. C'est le temps de sortir vos barbecues. C'est surtout le temps de les préparer, de les nettoyer, parce qu'il y a certaines conséquences dans lesquelles il faut tenir compte. Le barbecue, vous l'avez laissé souvent l'hiver, dans la remise, dans le garage, dans peu importe. Et il y a des précautions à prendre parce que les araignées, les petites araignées, adorent le gaz qui reste dans les tuyaux de barbecue. Donc, vont rentrer dans les tuyaux qui partent de la bonbonne, qui amènent jusqu'à la sortie des bouches de sortie de gaz qu'on allume, là, c'est le grill. Eh bien, les araignées adorent ça, ils se mettent là-dedans, et souvent bouchent. Donc, soyez vigilants, il va falloir brosser ces sorties bien comme il faut, avec une brosse d'acier pour ça. Là, on prend la brosse d'acier vraiment parce que c'est une nécessité. Et on laisse brûler le barbecue pendant, je vous dirais, un bon 5 minutes, là, sans rien mettre, là, pour vraiment là, purifier tout ça. Très, très important. On s'assure évidemment d'avoir du gaz, d'avoir du propane dans les bouteilles, parce que ça, c'est drôle de commencer la saison, puis de se rendre compte que 5 minutes après, on n'a plus de propane. Ça fait dur pour les invités ou la famille, là, quand vous commencez un barbecue, là. Et ça, il faut vraiment encore là s'assurer du nettoyage des grilles, de tout ce qu'il faut, là, tout ce qui va avec. Avant d'utiliser votre barbecue, faites tous ces efforts-là. Ça va vous prendre une heure, je le sais, mais il faut le faire. C'est nécessaire, c'est une nécessité. Et on voit de plus en plus maintenant des planchas. Donc, plancha, qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer. Arriver sur le marché qui vont remplacer les barbecues. La plancha, c'est simple, c'est une reproduction des plaques qu'il y avait dans les restaurants de petit déjeuner sur lesquels on fait cuire là, directement ces plaques de fonte sur lesquelles on fait cuire les œufs, on met du bacon, on met des patates le matin, là, puis on cuit tout ça. Donc c'est une reproduction comme ça avec une table de fonte. Ça se pose sur une table de bois ou sur une table n'importe quoi. C'est très 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 à la mode. Ça vient d'Espagne au départ, mais plancha c'est un nom qui dit à plat, là, donc cuit sur la planche si vous voulez. Et c'est rendu très populaire. Certains magasins spéciaux de barbecue, mais bien sûr, le barbecue va rester populaire. Puis on voit des choses dans les barbecues. Là, maintenant, c'est des fumoirs. Il y en a même qui ont des réfrigérateurs intégrés. Enfin, il y en a, c'est des machines roulantes. Maintenant, si vous voulez payer 10 000 piastres pour un barbecue, c'est votre affaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça reste un accessoire d'été. Même si on s'en sert beaucoup, bon, à moins d'être très riche et d'en avoir les moyens. Mais moi, j'aime beaucoup la plancha. J'en ai adopté une depuis quelques années. Et je fais beaucoup de choses. Ça remplace, je vous dirais, aisément un barbecue. Puis quand c'est bien chaud, vous pouvez griller tout ce que vous voulez qui va éviter de tomber dans les grilles là, à l'intérieur. Quand vous faites des sardines ou des choses comme ça, des pétanques, ben, ça tombe des fois au milieu. Puis pouf, vous venez de les perdre. Tandis que là, sur la plaque de fonte, c'est très, très agréable. Et ça se nettoie. Lorsque c'est fini, vous prenez de l'eau, vous le mettez par-dessus, il y a une gouttière à l'intérieur, puis là, vous récupérez ça et vous jetez ça. Donc, recommandé, ça s'appelle une plancha, il s'en fait à différents prix, vous allez les trouver dans les magasins spécialisés, ça peut être un complément au barbecue, si vous voulez, ou changer à un moment donné, donc c'est très très agréable, alors je vous le recommande. Vous avez entendu parler de la fin du panier bleu, le gouvernement a décidé de mettre fin à cette tendance de service qu'il offrait. Bon, pourquoi? On dit qu'ils ne font pas d'argent avec ça, que c'est compliqué, la gestion et tout. Moi, je pense qu'il y a d'autres problèmes à ça, c'est qu'on ne peut pas contrôler non plus la fourniture des produits au niveau du panier bleu. Puis il y avait un peu d'abus là-dedans, on mettait un peu n'importe quoi, puis on servait du panier bleu pour dire, bon, ben, ça va être québécois, les gens vont l'acheter. Ça, c'est une grave erreur à penser. Moi, je vous dirais, il va être très temps que l'on s'assoie, comme on devrait le faire pour la restauration. J'entendais encore des nouvelles cette semaine de restaurants qui sont encore avec des no-shows, encore de gens qui ont perdu dans le temps de Pâques. Beaucoup, beaucoup de places assises parce que les gens ne venaient pas, ils réservent, ils ne viennent pas. Donc ça, pour un restaurant qui commande du stock, là, c'est dramatique. Alors, panier bleu, ben, c'est ça, c'est en général le consommer local. Mais à quel prix? Moi, je suis d'accord de consommer local. Je suis quelqu'un qui prône pour l'économie locale. Mais pas au détriment de la qualité. Soyons clairs. pas parce qu'on consomme local, parce qu'on consomme bio que c'est meilleur. Donc, on doit toujours s'assurer en premier, je pense, que la qualité est un produit. Et j'ai très hâte que le gouvernement mette une certification qualitative, comme elle existe dans certains pays, ce qu'on appelle des fois un label rouge. Un code d'éthique et un code de responsabilité à l'égard de la façon dont le produit est planté, dont il est récolté. Par exemple, une volaille, je vous donne l'exemple, ben, une volaille qui a une certification label rouge va devoir être dehors pendant 2 mois, manger tel ingrédient, sans que ce soit nécessairement bio, mais au niveau qualitatif. Et ça fait défaut. Je dis, c'est pas parce que c'est local que c'est toujours bien et que c'est toujours bon. Hein. Et j'ai fait le test à différentes reprises sur des produits, par exemple, de charcuterie. Ben, c'était pas bon. C'était local, mais c'était pas bon, c'était pas bien fait, c'était trop salé, c'était ci, c'était ça. Mais là, il y a des gens qui se font avoir parce que c'est local. Puis ça n'existe pas juste chez nous. En Corse, il y a des histoires d'horreur qui viennent de sortir. Ils produisent, ils vendent 4 fois plus de charcuterie qu'ils en produisent. Donc évidemment, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, que le cochon corse, ben, il n'y en a pas tant que ça. Puis là, comment ça se fait qu'on est capable de vendre partout, dans tout, dans les marchés? Ben, on a découvert dernièrement que ça se faisait faire ailleurs. Puis qu'on recevait du porc de Hongrie, du porc de Chine, d'ailleurs, partout. Alors, moi, je dis aux gens, vous êtes libre de consommer ce que vous voulez, mais il faut le dire. Il faut le dire, il faut l'écrire. Et là, à ce moment-là, le consommateur a un libre choix de décider ce qu'il veut. C'est ça la problématique. Alors, consommer local, oui. Mais à quel prix? Puis souvent, c'est comme je dis, c'est pas toujours le meilleur. Pourquoi au Québec, les étiquetages de produits n'indiquent-ils pas tout? Pourquoi on ne sait pas encore qu'il y a des OGM? Pourquoi on ne sait pas la provenance? Pourquoi il faut toujours gratter, demander, spécifier? Puis là, dans les supermarchés, ils n'ont pas la réponse. Le boucher qui est derrière eux, il ne sait même pas d'où vient sa viande. Lui, il a fait une commande au centre de l'oblast, il était livré, puis il ne sait pas d'où ça vient. Il dit, ben, je viens du Canada, mais oui, mais d'où du Canada? Mais il ne sait pas. Hein? Bon. Alors, moi, nous sommes en droit, en tant que consommateur, et moi, j'exige ce droit, et je me bats pour ça, pour vous, pour moi, pour mes enfants, pour vos enfants, à ce qu'on puisse avoir une alimentation de qualité, en sachant ce que l'on mange, et on n'a pas envie d'avoir des antibiotiques d'une viande qui a été vaccinée 4-5 fois. On n'a pas envie de ça aujourd'hui, là. Puis on a le droit de décider, on paye le prix, merde, c'est pas. Bon, je l'ai dit, là, je me suis fâché un peu, là, mais c'est tout, je ne me fâcherai pas plus. En tout cas, et je vous dis que c'est à force d'en parler, c'est à force de vos décisions, à force de vos implications qu'on va être capable de faire avancer les choses. Il y a bien des choses dans la vie qui ont changé à cause de ça. Alors, j'ai fini ma petite crise, maintenant, on va passer à quelque chose qui a du bon. Ça s'appelle les CAB. Je vous ai déjà parlé de ces centres d'action de bénévoles qui sont, on retrouve un peu dans certains villages, dans certaines petites villes, et qui arrivent, eux, avec peu de moyens. Souvent, c'est Moisson Montréal qui vont leur fournir des produits, c'est des légumes moches, peu importe, mais ce sont des produits qui sont des bons produits, mais qui n'ont pas de valeur ajoutée parce qu'ils sont pas beaux, parce que si, parce que ça, ou défraîchis. Mais moi, je félicite ces gens-là qui sont capables de faire des repas très peu chers, de bonne qualité. J'en ai goûté beaucoup. J'ai été tellement surpris de voir qu'on était capable de sortir des plats à 3,50 $, 4 $, qui répondent à un besoin spécifique d'une clientèle spécifique, mais tant mieux, parce que c'est pas tout le monde qui peut acheter du filet mignon à 70 $ le kilo, là. Hein? On s'entend? Puis, même s'il y a des gens qui voudraient, ils peuvent pas se le permettre. Alors, le CAB, les CAB, donc les centres d'action bénévoles, ce sont des bons compromis pour les gens qui ont peu de moyens et qui veulent se faire plaisir. Puis, vous-même, allez-y, là, même si vous avez les moyens, testez-les, puis vous allez voir que vous allez être surpris de voir la qualité. Moi, j'ai mangé une blanquette de veau exceptionnelle. J'ai mangé différentes choses, puis je me disais, mon Dieu, il faut que je félicite les cuisiniers parce que je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font avec si peu. Alors, bravo, il faut les encourager. Ça reste des notes positives, contrairement au panier bleu. Et puis, en terminant, je vous parle de mangue, de fruits de la passion ou des papayes au menu. Parce qu'on est dans un cycle, là, en ce moment, où les clémentines se terminent, même s'il y a encore des oranges, des clémentines. On voit beaucoup de raisins qui viennent du Mexique, de Californie. On voit certains produits, mais on voit aussi sur le marché maintenant des mangues, des fruits de la passion et des papayes qui sont présentes, qui viennent du Brésil, du Pérou. La mangue, c'est un produit là qui a fait ses preuves. Hein. Quand ce soit des mangues alfa-alfa ou du Brésil directement, les grosses mangues rouges, là, c'est des produits remarquables, c'est des produits très très agréables. Donc, on retire la peau, bien sûr. Il y a un noyau central qui est assez épais. Et puis, on peut les consommer tels quels ou encore en salade de fruits, très intéressant. Fruits de la passion, c'est un peu plus compliqué pour les gens qui n'ont jamais goûté à ça. Il faut les prendre assez mûrs, il faut les ouvrir en deux, avec une cuillère, ça se mange comme ça, tel quel. Les enfants adorent, Et encore là, vous pouvez les mettre dans une salade de fruits, c'est extrêmement intéressant et très agréable. Et puis les papayes, on va retirer les graines de papaye à l'intérieur, on les coupe en deux. On retire la grille, il y a différentes espèces, hein, mais celles qu'on trouve sont généralement bonnes. On va retirer les petites graines de papaye qui, si on les fait sécher, vont servir d'attendrisseur. Il y a des gens qui s'en servent pour attendrir les viandes, donc ils vont les mettre dessus. Et puis la papaye a un rôle d'attendrisseur de viande. Moi, je me servais des feuilles quand j'étais en Polynésie, à Tahiti. Je me servais des feuilles de papayer. Et puis, on mettait la viande dedans pendant quelques heures, puis ça attendrissait les viandes. Alors, papaye aussi, soit la manger comme ça, dans des salades de fruits, en yogourt ou tout. Donc, c'est des fruits dont vous pouvez profiter en attendant là, la saison qui arrive. D'ici un mois, là, vous allez avoir des cerises, là, puis vous allez avoir des fruits d'été. Et bientôt, puis ça va vite. Puis après, c'est les fraises, hein, les fraises, bonnes fraises du Québec, là. Alors voilà, mes chers amis, j'espère que vous avez eu du plaisir à m'écouter. Assiette et fourchette au menu. Et puis, moi, je vous salue. Je vous remercie toujours de votre présence et merci d'être toujours là un peu plus nombreux à chaque semaine. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.